J'ouvre en moi-même un théâtre où se joue un faux sommeil. Georges Bataille, la haine de la poésie. Avec Juliette Bernatché et Simon Dumas. Bienvenue à La haine de la poésie, une émission qui cherche à mettre en lumière un imaginaire collectif de la poésie, comme une façon qu'elle a d'être à la fois partout et invisible, ignorée même, mais jamais totalement absente de la vie de quiconque. Deux fois par mois, nous vous proposerons une rencontre avec une personne active dans la société, que ce soit sur le plan culturel, politique ou philosophique. Nous leur demanderons ce qu'est la poésie pour eux, et quelle est la place qu'elle prend dans leur vie, et ce, même s'ils n'en lisent pas.
Aujourd'hui à l'émission, on reçoit l'auteur Samuel Larochelle et la formatrice en alphabétisation populaire et poète Noémie Pomerleau-Cloutier. Bon, tout d'abord, Samuel, on peut te lire sous plusieurs chapeaux. Tu es critique littéraire, chroniqueur, journaliste, romancier, et nous l'apprenons maintenant, poète. Comment aimes-tu te présenter? Comment aimes-tu faire parler de toi selon tes occupations?
Mais de façon générale, pour ne pas faire peur au monde, je leur dis simplement que je suis écrivain et journaliste parce que quand je commence à détailler tous les différents trucs que je fais, ça impressionne trop, ça donne l'impression que j'ai aucune vie personnelle, que je ne prends pas soin de moi, alors que c'est vraiment dans différents moments de mon année ou de mes journées. Je pense que écrivain, ça vient laisser entendre la création. Journaliste, c'est plus le plan médiatique où je mets les autres en lumière. Mais au final, si j'avais une carte d'affaires, il y aurait sûrement 10 trucs dessus.
Moi, je te proposerais futur Simon Boulris.
Oui. Pour vrai, dans chacune de mes biographies de livres, j'essaie d'être un peu niaiseux, un peu funky. Puis j'avais un jour envisagé écrire mon objectif et de voler l'adjectif prolifique à Simon Boulris. Mais je m'étais retenue en me disant, je ne veux pas que ce soit ça ma vie, juste enchaîner les projets par rapport au mot prolifique et non pas par rapport à Simon. Je veux que ce soit vraiment des trucs dont j'ai besoin de parler puis que ça vienne, que ce soit porté par un élan de création et non pas de quantité. Mais moi aussi, je fais le lien. Je trouve qu'on se ressemble sur beaucoup de plans, Simon et moi. Puis au final, on écrit pour les adultes, pour les ados, pour les enfants, plusieurs genres littéraires. On fait de la télé, on fait des romans. Éventuellement, moi aussi, je veux tenter les albums. Donc, puis je veux faire de la chronique à la télé et à la radio comme il fait. Donc, il y a plusieurs liens à faire.
Oui, puis on a vu d'ailleurs que tu voulais créer un balado.
Oui.
Un jour, qui s'intitule « Comme un livre ouvert ». Donc, tu veux interviewer des auteurs connus, mais est-ce qu'il y a des chances que tu invites des poètes?
Ah oui, absolument. Dans ma liste, il y a déjà des poètes qui sont dans les gens que je veux approcher. Ensuite, ce sera à eux et à elles d'accepter ou non. Mais je veux qu'il y ait à la fois des slameurs, des poètes, des romanciers, des scénaristes, des dramaturges. Ça pourrait être aussi des auteurs de chansons, c'est si près de la poésie, mais oui, je veux aller naviguer dans un peu tout ça. Ça, c'est sûr à 100%.
C'est quoi l'objectif de ce balado-là à la base?
Je veux qu'on se donne le temps de jaser, d'aller plus en profondeur et plus en légèreté, qu'on sorte du giron de la promotion de 5 à 8 minutes à parler d'une œuvre, ce qui n'est jamais suffisant. C'est souvent en surface, sans vouloir dénigrer le travail des journalistes dont je fais partie moi-même. Puis, je veux qu'on ne parle pas seulement d'une œuvre qui vient de sortir, mais de la démarche de la personne, des objectifs, de l'évolution d'une plume, de certaines thématiques en particulier, qu'on se donne le droit, en bon québécois, de chirer à l'occasion, d'être aussi dans quelque chose de rigolo, d'accessible. Je veux qu'on rejoigne vraiment un public assez large. Donc, c'est ça l'objectif.
Puis crois-tu que c'est peut-être ton passé, ton passé, ton présent de critique qui t'amène à vouloir créer ce genre d'initiative-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves manquant? Ouais.
C'est mon passé de critique parce que j'ai été critique pendant des années sur un blog, puis comme journaliste rémunéré, puis j'ai arrêté de le faire, mais récemment, on m'a réinvité à être un chroniqueur littéraire à la radio de Radio-Canada en Abitibi-Témiscamingue. Donc, je donne mon point de vue, mais j'ai choisi de seulement parler d'œuvres qui m'ont plu, parce que je ne me sentirais pas à l'aise de pointer du doigt ce que je considère être moins réussi dans une discipline que moi aussi je pratique. Fait que c'est plus ou moins mon côté critique qui a envie de faire le balado. C'est énormément mon côté écrivain qui a envie de rencontrer d'autres écrivains, puis que on se comprenne puis qu'on échange sur notre pratique. Puis c'est aussi mon côté journaliste qui aime beaucoup faire parler les autres, faire découvrir les autres. Donc là, j'ai l'impression que tout ce que je suis va se réunir dans ce balado-là.
Est-ce que ça se peut que ça soit aussi ton côté lecteur qui a envie d'entendre parler de plus d'écrivains ou d'écrivaines que j'aimerais plus découvrir?
Oui, j'ai l'impression que moi, comme le grand public en général, on a soif de longues entrevues avec des auteurs, des autrices. Puis si je veux pas être dans une discussion entre érudits, c'est vraiment parce que je pense que ce projet-là peut rejoindre un grand public dont je fais partie. Quand je fais des conférences dans les écoles, je dis souvent aux jeunes que mon objectif, en fait, que je refuse qu'ils aient besoin d'un dictionnaire pour me comprendre. Moi, je vais pas utiliser des mots à 1000$ pour prouver à tout le monde que je suis intelligent. Je veux toucher les gens, je veux travailler sur la stylistique, sur le rythme et bien d'autres choses, mais je veux jamais les perdre, puis je veux jamais qu'ils se sentent, on va dire, inférieurs ou pas connaissants assez. Puis vu que tu travailles en alphabétisation, j'ai l'impression que tu as une sensibilité par rapport à ça, qu'il n'y a pas de laisser pour compte dans la façon dont on travaille. Est-ce que je me trompe?
Ben non, en fait, tu ne te trompes pas du tout. Tout ce que tu disais, pour moi, ça, c'est des choses qui résonnent. Là. En fait, moi, en plus d'être poète, mais en fait, souvent, quand je me décris, je ne vais pas dire que je suis poète en premier. Hein. Ça va venir en dernier. Accessoirement, je suis poète. C'est souvent ça que je vais dire. Quand je ressens même le besoin de dire, parce que des fois, je n'ai pas le besoin de le dire. Puis, c'est ça. Je travaille en alphabétisation populaire depuis 2013, mais avant, j'ai travaillé en francisation, puis en francisation alpha. Ça, c'est avec des immigrants qui sont en alphabet dans leur langue maternelle, la francisation alpha. Donc, c'est deux, trois choses différentes. En francisation, en général, ils sont assez scolarisés. Puis, francisation alpha, c'est 8 ans et moins de scolarisation. Puis, alphabétisation populaire, ben ça, c'est des gens qui, en général, n'ont vraiment pas fité dans le système scolaire tel qu'il est, n'ont pas réussi et ont d'autres problématiques de vie. Parce que souvent, en fait, l'analphabétisme, ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème de société. Mm-hmm. C'est pas parce qu'une personne était pas assez bonne à l'école, puis là je dis assez bonne, là, je mets des guillemets, assez bonne pour un système qui est un peu fucké, qu'elle réussissait pas assez bien parce qu'elle était paresseuse ou parce qu'elle avait pas le goût ou non. En général, les gens qui ont des problèmes dans lecture et en écriture, c'est des gens qui ont eu une vie difficile, c'est des gens qui ont eu à tout le moins des troubles, des difficultés d'apprentissage, des troubles d'apprentissage, des difficultés à la maison. Il y a des gens qui ont vécu de la toxicomanie ou qui se battent encore avec une addiction, qui ont connu l'itinérance, la violence. Puis souvent, ça va de pair avec la pauvreté. On n'a toujours pas résolu l'énigme de l'œuf et de la poule. Là. Est-ce que la pauvreté amène l'analphabétisme ou l'analphabétisme amène la pauvreté? Alors, je vous défie de dire analphabétisme plus vite que moi.
Mais tu sais, tous ces gens-là, autant que tous ceux qui ont un parcours académique plus traditionnel, plus long que même le mien, parce que je n'ai pas un très long parcours académique personnellement, il y a beaucoup de gens qui ont été largués par la lecture ou qui ont décidé de la larguer.
Oui.
Puis moi, quand il y a des gens qui me disent « ça fait 10 ans que j'ai pas lu de roman, puis j'ai lu le tien », c'est un des plus grands compliments du monde d'être allé rechercher quelqu'un parce que les lectures imposées ou la surcharge de lecture universitaire, ces deux choses-là font des ravages, je pense, pour le plaisir de lecture et donc ensuite notre capacité à naviguer en société avec tout ce qui est à lire ou à écrire.
Ouais.
Donc,
définitivement. Je veux dire, là, récemment, quand La patience du lichen est sortie, le père d'une de mes amies du secondaire m'a écrit plein de messages sur Facebook. On s'était ajoutés, puis il a acheté mon livre. Il m'a dit, ben, je ne lisais pas pour le plaisir, puis ton livre doit être spécial parce que j'ai le goût de le lire. Puis après, il m'a dit, voici tout ce que j'ai aimé, moi, comme néophyte. C'est, selon moi, le plus beau message que j'ai jamais eu de ma vie. Et pour moi, c'est très important. En fait, j'ai souvent été impliquée dans des, et je le suis encore, là, dans des initiatives qui démocratisent la poésie. Je veux dire, je fais du bénévolat du bénévolat et des ateliers pour lesquels je suis payée des fois, là. Mais dans la rue de la poésie, dans Hochelaga-Maisonneuve depuis 2013. Puis j'ai travaillé. Je veux dire, j'ai été sur le CA fondateur de la Poésie Partout. J'ai été avec la Poésie Partout jusqu'en 2019. Puis je fais encore des collaborations avec eux, donc pour disséminer la poésie. Puis on fait de la poésie à l'atelier des lettres avec les participants. Fait que pour moi, c'est vraiment important de démocratiser la poésie. La poésie, c'est pas que pour les universitaires. Et même moi, je veux dire, j'ai pas un parcours scolaire. Moi, je me suis trompée plusieurs fois dans ma vie. Je veux dire, j'ai fait un DEC en hygiène dentaire. Au cégep de Chicoutimi, tu sais. Puis après, ben, j'ai travaillé un peu, mais j'ai haï ça. Après, j'ai fait un bac en enseignement du français langue seconde. Après ça, j'ai travaillé un petit peu, mais c'était... Moi, je meurs dans le système traditionnel, là. J'aime pas être un numéro. J'aime pas que mes élèves soient un numéro. Donc, puis après, ben, j'ai fait un DESS à Concordia en développement économique communautaire. Je n'ai aucun diplôme en littérature. Puis je dis souvent que je voulais pas aller en littérature parce que j'aime trop lire. Puis que ça aurait tué le plaisir de lire que d'être en littérature. Est-ce que c'est vrai? Pas vraiment. J'aimerais peut-être faire un certificat en création littéraire ou une maîtrise en littérature, mais j'irais vraiment dans quelque chose qui lie la pratique littéraire et les gens. Puis c'est ça. Des fois, j'étais dans la rue de la poésie avec les citoyens de Schlaga, je veux dire, j'avais des fois des gens qui disaient « Ah, moi, je suis pas bon, là, je peux pas écrire ça un poème. » Puis là, tu disais « Ben oui, mais qu'est-ce que vous aimez dans la vie? » Puis à force de discuter avec la personne, mais la personne, elle disait des choses, puis des fois, j'étais comme « Est-ce que vous venez de dire c'est un poème? » Mais les gens, c'est encore aussi, soit c'est pour l'élite très, très scolarisée, soit ça rime puis c'est poche.
Oui, mais moi-même, même si j'ai hérité depuis quelques semaines du titre de poète, puis ça fait 2 ans que je mets des guillemets entre le mot poète pour me désigner, moi-même, je fais partie de ceux qui avaient terriblement peur de la poésie, qui pensaient que j'avais pas ce qu'il faut pour la comprendre, pour l'écrire. Que c'était réservé à un petit groupe de personnes dont je ne ferais jamais partie. Donc, même si j'ai une grande habileté avec les mots et avec le français, moi-même, j'ai eu peur.
Alors que la poésie, c'est comme, selon moi, une des formes les plus libres qui existent en littérature. Donc, libre dit aussi qui est capable de tout, tu sais. Puis je pense que tout le monde peut investir la poésie. En fait, moi, je considère que les participants de l'Atelier des lettres sont de bien meilleurs poètes que moi. Surtout que, tu sais, c'est ça, je dis pas là, que je les aide pas. Okay, quand on commence, on parle d'un thème, ils ont des idées, on les note. Tu sais, souvent, je vais pousser leur idée. T'sais. OK, oui, tu as voulu dire que ouais, le soleil brille, mais comment tu peux dire ça sans dire le soleil brille? On y va. Bon, ben tu sais, qu'est-ce qui peut ressembler à briller? Puis là, quelque chose, je sais pas, dire. C'est un spotlight. Bon, OK, le spotlight. Puis le soleil, comment on pourrait dire le soleil au lieu du spotlight? Bon, tu sais, lumière, lueur, tu sais, puis ils s'en rendent pas compte, mais ils ont tellement augmenté leur vocabulaire, là, leur lexique est rendu complètement, là, ils s'en rendent pas compte, là, puis des fois, ils disent des choses, puis je suis comme, tu sais, j'aurais jamais dit ça avant, ce mot-là, là, j'ai pas d'exemple vite qui me viennent, là, surtout que je les ai pas vus en personne, en groupe, depuis quelques semaines à cause du reconfinement, mais c'est ça, ce sont des gens qui ont des choses à dire, puis c'est des gens qu'on n'entend pas souvent. Mettons qu'ils parlent de précarité, ben ils n'en parlent pas avec un filtre, là, c'est directement leur réalité. Puis ça, je le retrouvais beaucoup aussi en Basse-Côte-Nord. Tu sais, les gens plus âgés ne sont pas allés à l'école très longtemps. Ou... Maintenant, quand on veut être capitaine d'un bateau de crabe, ben, ça prend son R5 plus des cours là, spécialisés là, tu sais, pour avoir sa licence de capitaine. Là. Quand même complexe, mais avant, tu sais, ça s'apprenait avec son père, son grand-père. Fait qu'il y a des personnes plus âgées qui sont comme, ah, ben moi, la poésie, tu sais, tu fais un projet de poésie, ben je vais te parler, mais moi, c'est sûr que j'en écrirai pas des poèmes ou j'en ferai pas, mais 5 secondes après, ils sont en train de te raconter une histoire, puis la manière dont ils décrivent les choses, t'es comme, ah, ça, c'est clairement de la poésie, même. Ces gens-là, pour moi, en fait, c'est de la poésie sur deux pattes. T'sais. Les gens s'en rendent pas compte qu'ils en font de la poésie à tous les jours.
La poésie, c'est quoi pour vous?
Ça a longtemps été la chose qui me faisait peur, que je pensais être obligatoirement abstraite, avec des rimes, avec un décompte précis de pieds, donc de syllabes, puis que c'était normal qu'on ne comprenne pas tout le temps, puis que c'était même idéal et voulu de la part des auteurs qu'on ne comprenne pas tout, un peu comme certaines œuvres d'art visuel, qu'il faut juste se laisser imprégner par une émotion après avoir contemplé les mots. Mais il y a quelque chose en moi qui me donnait l'impression, il y a 2 ans, que c'est par la poésie que j'allais pouvoir découvrir autre chose avec ma plume, puis à propos de moi-même. Puis j'étais après 5 romans, incluant une trilogie, j'avais pas de projet créatif devant moi. J'avais envie d'essayer un nouveau genre littéraire. J'avais des choses à dire sur certains sujets, puis j'ai juste pris du temps pour moi sans savoir si ça allait être publié. Puis, au début, j'ai essayé de correspondre à ce que j'imaginais être la poésie. C'était vraiment, vraiment mauvais. Puis, à un moment donné, dans un échange avec une date, des échanges textos qui étaient romantico-poétiques, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Je suis capable de créer des images hyper fortes, hyper originales, que j'ai jamais vues ailleurs. C'est ça aussi de la poésie. Fait que j'ai décidé de me dire que ma façon d'en écrire, c'était l'originalité, des images parlantes, et mon bagage de musicien fait en sorte qu'il y a une grande attention donnée au rythme des phrases. Donc, il y a un style particulier, mais à chaque fois que je commençais un texte, je laissais émerger la forme par elle-même parce que je suis très instinctif puis vraiment pas intellectuel dans mon écriture. Fait que j'ai décidé que ça aussi, c'était valable, mais ça m'a pris des mois et des mois. Puis des Véronique Grenier, Hélène Dorion, David Goudreau qui m'ont encouragé à arrêter de mettre des guillemets autour du mot « poète pour que je me donne le droit. Mais même encore aujourd'hui, c'est plus ou moins assumé de ma part.
Non, moi, c'est ça. Je pourrais peut-être dire... Avec le deuxième livre, je me dis, OK, oui, là, j'ai quand même une partie de moi qui est poète. C'est pas, elle devient de plus en plus importante. Puis on avait une discussion à un moment donné avec des femmes que je connais. Puis je disais, ouais, c'est ça. Moi, de toute façon, aux yeux de telle personne, je ne suis que la prof, là, la fille qui donne des cours de lecture puis d'écriture. Je ne suis pas poète. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, viens-tu te rendre compte que, en fait, tu voulais, comme... Tu te rends compte que tu aurais le goût de le porter, là, ce titre-là, tu sais, alors que tu le refuses tout le temps. Puis j'étais comme, ah ouais, c'est vrai. Ah, OK. Mais qu'est-ce que c'est la poésie pour moi? C'est tellement complexe, la poésie, en fait, et tellement simple à la fois. Pour moi, la poésie, c'est comme une façon de vivre. Une façon d'aborder le monde, puis de le percevoir, puis de le rendre... au monde et aux gens. C'est pas mal ça. La poésie, ça peut aussi être des moments. Puis, tu sais, j'aime pas tout le temps ça non plus quand on dit « Ah, ça, c'est de la poésie », mais ça, pour la poésie du quotidien ou quelque chose, un truc du genre, mais en même temps, c'est vrai. C'est ce qui est le pire, tu sais. Je veux dire, c'est de savoir trouver la beauté à quelque part puis la rendre au monde. Et c'est aussi être capable de passer des émotions. Avec diverses formes d'images, mais il y a autant de poésie, je pense, qu'il y a de poètes, selon moi. Puis moi, je sais, je suis très consciente quand j'écris que je n'invente rien, dans le fond, que je vais puiser aussi dans mes lectures parce que je suis une grande lectrice. Puis quand j'ai commencé à écrire de la poésie en 2012, c'est mon ami Maïgan Lepage, qui est un ami d'enfance, qui est auteur aussi, qui m'a dit ouais, il y a quelque chose, mais travaille, tu sais. Il m'a dit Lis, mais tu sais, moi je lisais déjà beaucoup, mais je lisais pas tant de poésie que ça à ce moment-là. Mais c'est ça, je pense que je me nourris beaucoup de ce que je lis aussi. Puis de travail que je fais, mettons, avec des citoyens dans différentes médiations culturelles, mais aussi à l'atelier des lettres avec les participants, ben pour moi, ça me nourrit aussi comme poète. Quand je vois la liberté que les participants ont, tu sais, ils attendent rien, ils se disent, moi, on le fait parce qu'on veut s'exprimer, mais il n'y aura pas de publication après, il n'y aura pas... Oui, les gens vont le voir, puis ils le savent, puis ils sont bien contents de ça. Mais tu sais, ils sont vraiment libres, ils n'ont pas de filtre. Puis ça, je l'envie beaucoup parce que dès que tu lis plus ou tu côtoies plus le milieu littéraire, ben tu commences à avoir... En tout cas, moi, là, je commence à avoir un plus gros filtre. Là. Ça va être jugé comment? Ça va être vu comment? Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est trop? Eux, ils n'ont pas ça, là. Puis les enfants non plus. Puis, tu sais, je trouve que les enfants, c'est des très bons poètes aussi. T'sais, mon neveu, quand il avait 9 ans, il a lu Brassé de Varech, qui est quand même difficile, tu sais. C'est difficile, ça parle quand même du suicide de son grand-père. Puis moi, je n'étais pas sûre du tout que c'était une bonne idée qu'il lise ça, mais c'est sa mère qui a décidé. Il sait déjà comment son grand-père est décédé. Puis j'ai dit, comment tu as vu ça, tu sais? Qu'est-ce que tu as compris? Puis il m'a dit, j'ai compris que les humains, c'est des arbres. Et c'est, à ce jour, la meilleure explication du recueil. Les enfants ont souvent la réponse. Puis en fait, le problème avec la poésie, c'est qu'on cherche une réponse. Et il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et parfois, il n'y en a même pas, puis c'est correct de ne pas comprendre. Moi, j'arrête pas de dire que, mettons, Sigu d'Annie Lafleur, là, j'ai adoré ce recueil. Mais je ne suis pas sûre que j'ai compris le 1/8 de ça. Et j'ai ressenti en maudit, par exemple. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important. Puis les gens ont peur de la poésie à cause qu'ils pensent qu'il faut qu'ils arrivent avec une explication. Moi, je le dis souvent à l'atelier des lettres, il n'y a pas de bonne explication.
Moi, je ne me suis jamais senti limité par le roman, mais il y a probablement des sujets ou des émotions que je n'évoquais pas parce qu'il fallait une forme courte qui est plus propre au poème. Tu sais, quand, dans un de mes projets, je dis aux gens, mes textes vont d'une ligne à quatre pages. Donc, même si je raconte de petites histoires, jamais j'aurais pu faire ça dans un roman. Fait que je pense que c'est une partie de moi qui n'existait pas dans le roman, même si je ne me sentais pas limitée dans ce genre-là.
Mais j'aime bien, moi, les formes hybrides qu'on voit dernièrement. T'sais, par exemple, « Désormais, ma demeure » de Nicolas Dawson, c'est à la fois récit, poésie, prose et essai sur la dépression. Mm-hmm. La même chose avec « Rien du tout » d'Olivia Tapiero. C'est un melting pot de plein d'affaires. C'est écœurant. Moi, j'aime ça, ces formes hybrides-là. Je fais comme, je classe ça où, ce livre-là?
Voici un extrait de « J'ai échappé mon cœur dans ta bouche » qui va être publié dès le 21 avril. Le texte s'appelle « Jeu de société ». Chalet d'hiver, pas d'électricité ni d'eau courante, les flocons étouffent les bruits du dehors pendant que l'alcool déverrouille les confidences du dedans. Souper d'amis, tablé de privilégiés, on oublie le sens du mot « satiété », le temps de se rappeler à combien d'humains on a goûté. Entremets acidulés, questionnaire pour adultes consentants, les joues de tous les convives se maquillent de rouge, le temps de compter le nombre de leurs amants sur leurs doigts. Dessert révélation. Je savoure ma victoire par anticipation, convaincu que mes mains vont tout rafler avant même de partager le score de ma sexualité. Digestif mentholé. Suc gastrique chargé de lourds aveux, j'entends la gêne dans la voix de ceux qui ont eu 8 amants, en croisant le regard désapprobateur de ceux qui sont tombés amoureux à 16 ans. Shooter annoncé, esprit en quête de perdition, on attend ma réponse avant de verser la tequila pour se souvenir à jamais de la domination outrageuse de mes ébats. Collation tardive. Ils sont repus de potins et de détails croustillants lorsque j'affirme ne pas avoir assez de doigts pour soutenir mes statistiques, les laissant croire que je dois en avoir 17 ou pire 23. Café du matin, je me bidonne à l'idée d'avoir mérité le titre de dévergondé, même s'ils ignorent qu'après 100, j'ai arrêté de compter.
Pourquoi as-tu choisi Noémie comme poète invitée?
Parce que j'admire ce qu'elle fait dans ses deux professions, l'alphabétisation et la création, parce que le projet La Patience du Week-end est né après un voyage sur la Basse-Côte-Nord sur un bateau qui s'appelle le Bella Degani, qui fait tous les petits villages reliés ou non reliés par la route jusqu'à Blanc-Sablon. Puis c'est une expérience absolument hors du commun que j'ai vécue. Puis c'est une coïncidence, mais je l'ai vécu quelques semaines avant Noémie, parce qu'on s'est rencontrés au Salon de la Côte-Nord en avril 2018. Peu après, tu t'en allais en été, en juin ou en juillet, pour la première fois. Puis moi, je m'étais entendue avec l'organisation du Bella Degani pour vivre l'expérience et la relater comme un journaliste. Donc, tout de suite après le Salon de la Côte-Nord, j'avais vécu ça. Donc, j'ai lu La Patience du Week-end, j'en ai parlé dans ma chronique à Radio-Canada. Fait que j'avais été touché dans les dernières semaines par sa poésie, puis ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on se connaît, donc naturellement, je suis allée vers elle.
Bonjour, je m'appelle Noémie Pomerleau-Cloutier. Je vais vous lire des extraits de mon dernier recueil paru en mars à La Peuplade, qui s'intitule La Patience du Week-end. Alors, pour ce recueil, je suis allée de Kegaska à Blanc-Sablon, en Basse-Côte-Nord, interviewer les gens de chaque communauté. Le Bella Degani déverse un banc d'humains sur le quai à l'avalement du soleil. À Kegaska, le gravier prend feu comme chaque samedi. Puis, le silence. La vague ne reste que quelques secondes au même endroit. Dans ce retrait des eaux, je croise le mien. Je ne sais pas nicher. La Romaine.
Entre les peuples, les gouvernements sont des barrages encore plus imposants que ceux d'Hydrault. Unamen Chipu. Pieds nus dans le sapinage, je les vois près de la chapelle. Que font-elles là, des planches sur les jambes? De tous âges, assises sur un tapis de mousse, de thé du Labrador, de camarine. Et portent une voix. « J'ai 58! » Mon ignorance me sourit. Elle joue au bingo. Chevry. S'en aller par clan de l'île qui nous a vu naître. Les maisons pleines de barils ont flotté, se sont nichées entre deux eaux. Une odyssée qui fixe les attaches. Vider les lieux, il y a plus de 50 ans, laisse encore un sillage. Harrington Harbor. Son territoire immense, les cieux, les eaux. Sur la route blanche, il rencontre celle qui deviendra sa femme. Il l'invite à voler vers Blanc-Sablon. Une vie de pilote, une autre de capitaine. Prendre pied quelque part entre les multiples teintes de bleu. Toute sa vie dans des logbooks. Les journées s'allongent au bout des grues. J'admire la danse assourdissante des conteneurs qui, avec celle des vents, donnent le rythme à la côte. Il y a la vie de tant de gens entre les métacarpes de la machinerie. Sur le plus haut pont de Bella, les touristes ont tout leur temps pour commenter une réalité qui n'est pas la leur. Le ravitaillement est un art complexe. À chaque passage, j'embrasse l'amplitude de ce qui nourrit. Tête à la baleine. J'ai roulé 50 ans dans les machines sur la côte nord. Une charpente de montagne, ça sert de passeport pour forer la mine à 13 ans. Tu as chevauché une excavatrice. 3 semaines après ton premier jour de travail, tu y es resté une bonne partie de ta vie. Du haut de ta pelle mécanique, tu as construit des aéroports. Tu as creusé les kilomètres du quai à ta maison. Une à une, tu as allumé les lumières des villages de la Basse-Côte. Mais tu n'as pas connu l'école. J'avais pas le temps d'aller là. Tu connais le langage des machines. Tu as une vie complète de route, de mécanique dans ta carcasse. La tabatière. Elle rêvait de nourrir l'espace de son filet de sécurité. Ce devait être cette année. Now, I have nobody to feed. Ce territoire où les relations sont ancres souffre du retranchement dans lequel la planète, un moment, se terre. Pakwashipi. Un jour, tu iras là où la rivière coule, rouge, voir la tombe de l'homme qui se prenait pour Dieu. J'irai quand je serai prête à pardonner. Tu le feras pour toi, pour arrêter l'épidémie. Saint-Augustine. Leur père pêchait, trappait, guidait pour la chasse aux caribous au nord, là où les mines et la taïga se touchent. Les chairs, les peaux, les fourrures, les homards ont nourri leurs organes, ont payé leurs études. Le territoire éduque de diverses façons. St. Paul's River. Ta communauté t'a construite. Sur le territoire, toutes ces traînes de connaissances qu'on t'a transmises, tu dois bien à ceux et à celles qui ont érigé ton armure d'airelle de rapporter la science dans tes bagages. Tu trouves les mots pour expliquer ce qui fleurit du feu. Tu offres une perche pour cultiver le fragile. Bras d'or. L'artisan a une voix de tissu entre ses doigts, des hommages familiaux en courte pointe. Depuis l'enfance, le fil, l'aiguille, la ligne de pêche, la cueillette. Et le coup, la transmission, la constance, la bonté. La force a plusieurs nuances. Où commence la fin de la mer, Alessandro Barrico? Dans le ventre d'acier de Bella, je m'allonge. Je ne sais pas ce qui me fait tanguer, comme un trop-plein du vide à venir, laissé par tout ce que je quitterai en mettant pied à terre. Je me demande si les bateaux ont un cœur. Je suis certaine que oui. Ils en ont peut-être même plusieurs, le leur et ceux de toutes ces vies qu'ils transportent. La circulation sanguine est une vague, après tout.
Une production de Rhizome qui remercie CKRL et la Ville de Québec via son entente sur son développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.